téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, a donc présenté aujourd'hui ce qu'il appelle sa stratégie numérique, des services numériques pour les élèves, les professeurs, les parents. Tout cela sera mis en place entre 2013 et 2017. Exemple, contenu numérique pour apprendre l'anglais en primaire, sujet d'examen et correction en ligne, démarches administratives dématérialisées, campus numérique et réseau social pour les enseignants, site web avec infos sur la vie scolaire. Vous voulez en savoir plus, vous voulez donner votre opinion sur ces changements. Est-ce plus efficace, à coup sûr, d'apprendre avec le numérique qu'avec un tableau noir et une craie ? Appelez-nous, écrivez-nous, nos invités dans ce studio. Serge Bergamelli, qui est directeur général du CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Jean-Marc Mériot, directeur du CNDP, le Centre National de Documentation Pédagogique. Serge Bergamelli et Jean-Marc Mériot ont conseillé Vincent Peillon pour l'élaboration de cette stratégie globale pour le numérique. Troisième invité, Jérémy Pellet, professeur de sciences et vie de la Terre au Collège Rouault, dans le 19e arrondissement à Paris, et il participe au dispositif ADEL, aide aux devoirs et leçons en ligne. Quatrième invité, Emmanuel Davier, chef du service société de la rédaction de France Inter.
Pierre Veil sur France Inter.
Premier appel au standard, Philippe à Sens. Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vouliez intervenir, poser une question, commenter l'annonce de cette stratégie numérique de Vincent Peillon. Qu'en pensez-vous ?
Oui, j'ai l'impression qu'on nous présente un nouveau plan. Ça fait des années que l'enseignement des techniques numériques fait partie des programmes scolaires. Mais il y a quelque chose qu'on n'a toujours pas réglé, c'est la formation des enseignants. Donc apparemment, le ministre l'a annoncé. Mais il y a autre chose qui est l'équipement des établissements scolaires. Tant que les équipements seront sous-équipés, on ne pourra pas faire des progrès. Donc j'ai peur que ce plan, si on ne se pose pas la question de l'équipement des établissements scolaires, soit qu'un plan supplémentaire. Et puis donc, je voudrais savoir si c'est ma question, si l'équipement des établissements scolaires fait partie de ce plan et s'il sera soutenu par l'État ou s'il sera soutenu par les collectivités locales. Si ce n'est pas le cas, j'ai peur que ce plan ne serve à rien et qu'il, au contraire, renforce un peu plus les inégalités.
Voilà, Philippe, très dubitatif. Qui veut répondre ? Serge Bergamelli, directeur général du Centre national d'enseignement à distance.
Bien, bonsoir. Je réponds sur un sujet qui n'est pas tellement le sujet du CNED, mais cet après-midi, lors de la présentation du plan par Vincent Peillon, de nombreux élus figuraient autour de Vincent Peillon parce qu'il est exact que l'effort d'équipement, que ce soit le premier équipement ou que ce soit le renouvellement des équipements, hein, quand je dis équipement... infrastructure, support de réseau de télécom, réseau à l'intérieur de l'établissement scolaire, équipement informatique et autres. Il est exact, et votre auditeur a tout à fait raison, il est exact que cet effort d'équipement est un effort qui ne peut être que partagé parce qu'il est issu effectivement des compétences transférées lors de la décentralisation. L'équipement des établissements scolaires relève pour une très très large partie des collectivités locales. Et il n'y a pas de numérique en France s'il n'y a pas d'effort des collectivités locales. C'est pour ça que le ministre Vincent Peillon a souhaité, je pense au président de la région Auvergne, qui était à ses côtés, que les collectivités locales soient présentes. C'est une réalité de notre paysage politique et administratif français. On ne peut pas y échapper.
Jean-Marc Mériot, directeur du Centre national de documentation pédagogique.
Alors, je pense qu'aussi, par rapport à cette question de l'équipement, il faut faire aussi attention de ne pas se focaliser que sur l'approche de l'équipement. Parce que le constat aussi qu'on peut faire, c'est que les élèves, aujourd'hui, sont chez eux connectés, qu'ils ont à leur disposition un certain nombre d'outils numériques et qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on arrive à dépasser cette approche du numérique que par l'équipement. Il faut qu'on arrive à accompagner les enseignants dans la pratique aussi. Et donc, la question de la formation est au cœur et ça, l'auditeur l'a bien souligné aussi. Et je pense que cet accompagnement-là est nécessaire et c'est ce qu'a annoncé aussi Vincent Peillon cet après-midi. Il y a aussi la nécessité de développer ces usages du numérique dans la classe et qu'enfin, on soit en capacité de pouvoir proposer et changer les pratiques pédagogiques au sein de la classe.
Emmanuel Davier.
Alors, simplement pour compléter le propos, il me semble quand même qu'on ne fera pas l'économie de la question des investissements pour l'équipement. Je vais vous donner un chiffre. On recense en moyenne un ordinateur pour 9 élèves de primaire en France, contre 1 pour 3 au niveau européen. Et il faut savoir que dans certaines écoles primaires, les enseignants appellent les bonnes volontés, c'est-à-dire les parents d'élèves, pour leur donner leurs vieux équipements parce qu'ils n'ont pas de quoi mettre des ordinateurs. Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour mettre des ordinateurs en classe.
Alors, pour compléter ce que vous dites, Emmanuel, ce courriel de Véronique à Nîmes, elle écrit « J'ai lu qu'une commune riche, ici les Moulineaux, a déjà converti ses écoles au numérique avec des tableaux numériques interactifs, des tablettes tactiles. C'est une ville où se trouve le siège français de Microsoft et de nombreuses multinationales. Le numérique dans l'éducation sera-t-il réservé aux communes riches ?» Vous voyez, on est dans le débat des équipements, de l'argent, des crédits. Jean-Marc Mériot ?
Non, je pense que ce qui est annoncé aussi, entre autres, c'est vrai que vous soulignez la problématique du primaire. Et je pense que c'est aussi lié, bien évidemment, au fait de l'hétérogénéité des communes aujourd'hui et des moyens associés. Ce qui est annoncé aussi le ministre cet après-midi, c'est justement comment travailler au plus près de ces communes. Alors, il y a les collectivités de communes. Il y avait aussi des représentants de mairies qui étaient là, en tout cas de communes qui étaient présents cet après-midi. Et donc, il y a un plan qui a été annoncé aussi pour accompagner et pour aider les communes à pouvoir investir. Parce que le problème des communes aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir faire des appels d'offres auprès de l'ensemble des industriels aujourd'hui et qu'il faut aussi les aider. Et il y a des mesures très concrètes qui ont été proposées cet après-midi et qui vont vraiment dans ce sens-là pour aider les communes à pouvoir aussi s'équiper.
Il va falloir que tout le monde s'y mette. Voilà. L'État, les communes, les régions, les départements.
Alors, et les parents aussi devront s'y mettre ou pas ? Est-ce qu'on demandera une participation ?
Alors, Jean-Marc Mériot.
Aujourd'hui, je pense réellement que la question, comme le disait Serge Bergamilli, elle est dans une logique très partagée entre l'ensemble des acteurs. Et les parents, en tout cas, les parents seront là aussi sur l'approche autour de comment développer les usages et comment aussi comprendre quelle est l'utilisation du numérique dans la classe. Et je pense que ça, c'est aussi une nécessité de pouvoir accompagner les parents dans leur compréhension et dans les aider aussi à pouvoir intégrer le numérique dans la pratique pédagogique.
Au standard, dans l'Ain, Yves, il nous a appelé et il est en ligne avec nous. Bonjour Yves, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je suis enseignant en lycée et un des problèmes majeurs, il me semble, ce sont les postes de maintenance informatique. Ouais. Puisqu'à l'heure actuelle, en fait, ce sont des enseignants qui sont déchargés quelques heures par semaine pour s'occuper du réseau et des postes des lycées ou des collèges. Et le problème, c'est que c'était valable il y a une vingtaine d'années quand ils avaient 5 postes à gérer, alors qu'aujourd'hui, ils en ont des centaines. Moi, je suis dans un lycée de 2000 élèves, je crois qu'il y a à peu près 500 postes informatiques, et on a 2 personnes qui doivent être déchargées de 5 heures par semaine. Donc vous comprenez bien que ça pose un problème concernant la formation des enseignants. Ils ne peuvent pas intervenir auprès de leurs collègues pour les former, et ça pose un vrai problème de maintenance, parce que dans une entreprise, par exemple, ce serait complètement impossible de gérer un réseau dans ces conditions.
Réponse de Serge Bergamelli.
La remarque de l'auditeur est non seulement recevable, mais elle est tout à fait exacte. La question de la maintenance qui a à nouveau été évoquée par Vincent Payon. De mémoire, je crois que pour la région Île-de-France, ce sont près de 900 000 PC qui ont été acquis dans la totalité des lycées de l'Île-de-France. Aujourd'hui, le système est à bout de souffle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à acquérir des matériels. On doit évoluer et se poser la question d'une véritable professionnalisation de la maintenance des investissements réalisés par les collectivités locales. Je reviens sur la question précédente. Les exécutifs régionaux et les conseils généraux ont massivement équipé. La question aujourd'hui est l'offre de l'UGAP proposée par le ministre porte sur les communes. Madame, vous avez tout à fait raison. La disparité territoriale, elle est sur les communes. Mais au niveau lycée et donc exécutifs régionaux et collèges exécutifs départementaux, l'effort d'équipement a été massif.
Vous noterez que j'ai parlé du primaire.
Tout à fait. Et nous sommes en droit, je crois que le service public, le secteur public, est en droit d'exiger un niveau de maintenance que nous rencontrons dans les TPE et les PME. L'auditeur a fait référence au monde industriel. Je pense que ce n'est pas un tabou. Le service public mérite un niveau de maintenance qu'on trouve dans une petite entreprise. J'ai longtemps parlé moi-même d'insécurité informatique. Un enseignant qui bute sur un problème d'une maintenance qui n'est pas à la hauteur ne doit plus être mis en difficulté sur ce qu'on a appelé dans notre jargon des couches basses de peu d'intérêt à la maintenance.
Oublions la technique, on va ouvrir maintenant le chapitre de l'efficacité pédagogique du numérique. Je vais vous lire ce courriel de Claude à Strasbourg. On a reçu de nombreux du même genre. Est-on certain ? Y a-t-il des études qui prouvent qu'avec le numérique, on obtient de meilleurs résultats qu'avec les bonnes vieilles méthodes ? Je vais interroger à ce propos Jérémy Pellet, qui est professeur de sciences et vie de la Terre au Collège Rouault à Paris dans le 19e et qui participe à ce dispositif Aide aux devoirs et leçons en ligne. Vous pratiquez l'enseignement avec le numérique. Ça marche ?
Alors, a priori, oui, ça marche.
Ouais.
On a de bons résultats, effectivement. Maintenant, à évaluer, ça reste très compliqué. Ça reste palpable. On n'a pas de chiffres précis pour voir les impacts sur les moyennes des élèves, sur la réussite des élèves. Faut dire que le dispositif est tout récent.
Ouais.
Donc, les suivis de cohortes sont compliqués, etc. Donc, a priori, ça marche. Les élèves qui l'utilisent régulièrement progressent, ça, c'est sûr. Après, ça a d'autres avantages aussi que de faire progresser les élèves. Ça leur donne confiance, etc. Donc, ça touche à beaucoup de choses. Maintenant, l'évaluation, c'est toujours le problème quand on est dans l'innovation. C'est notre problème. Voilà.
Jean-Marc Mériot ?
Non, je pense que la question qui est posée par ce courriel est liée aussi au fait qu'aujourd'hui, réellement, dans la pratique même pédagogique, les élèves sont confrontés quotidiennement à ces outils dans leur pratique hors de l'école. Et que concrètement, il faut intégrer cette pratique-là aussi, cette évolution-là, dans l'école, parce que l'école est là pour créer le lien social, pour garantir aussi d'avoir des citoyens qui puissent s'inscrire dans la dynamique de la cité, et que concrètement, aujourd'hui, le monde digital fait partie de cette dynamique-là, et que l'école ne peut pas être à côté, et donc à nous aussi d'offrir des outils, de permettre aux enseignants d'utiliser ces outils, d'avoir des ressources. Je pense que c'est toute cette dynamique-là qu'il nous faut intégrer dans la pratique pédagogique aujourd'hui.
Serge Bergamelli.
Je voudrais prolonger le propos de Jean-Marc. Des élèves massivement connectés et équipés, avec l'écran au bout des doigts, l'interrogation fondamentale, c'est quand ces jeunes se connectent, est-ce qu'ils ne doivent trouver qu'une offre marchande et privée ? Et quelle est l'offre que le secteur public, le ministre a parlé de la République, il parle de refonder la République, il parle de numérique et de République. Je pense qu'il y a une injonction au service public d'être présent en tant qu'offre derrière ces écrans. Sinon, à quoi se connectent les jeunes ? En un mot, l'injonction, elle vaut aussi pour le service public. Doit-on abandonner, abdiquer ? C'est vrai pour toute l'offre publique. Trouve-t-on de l'offre publique en ligne ? Trouve-t-on de l'offre publique de qualité ? Et où est-ce que cette qualité, nous considérons que seul le privé doit l'apporter ? Moi, aujourd'hui, j'appartiens à une institution, et avec Jean-Marc, je crois que nous sommes dans la même logique, où nous avons envie de porter une offre publique de qualité, et qu'elle soit jugée, après, regardée en tant que telle.
Voilà, Serge Bergamelli, je rappelle, du Centre National d'Enseignement à Distance, Emmanuel Davier.
Sur le fait que Internet, ou le numérique, donc, instaure une nouvelle relation pédagogique entre l'enseignant et l'élève, je voulais poser une question à Jérémy Pellet. Quelles sont les qualités que le numérique valorise chez un élève ? La créativité, la confiance en soi, l'autonomie ?
Alors, surtout la confiance. Nos élèves, ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en l'école. Ils n'ont pas confiance en les enseignants. Et avec ça, en fait, on a une relation privilégiée. L'élève va se connecter, va poser une question qu'il n'osera jamais poser en classe. Du coup, nous, on va le débloquer. Puis en classe, après, il va pouvoir s'épanouir. Il aura confiance en lui, il aura la bonne réponse, etc. Ça fait effet boule de neige. C'est la confiance. Nous, c'est comme ça qu'on fait progresser nos élèves. On n'est pas en train de leur donner une réponse, on n'est pas en train de leur donner une méthode, on leur donne une confiance. Et ça se construit au fur et à mesure. Et c'est pour ça que ça marche avec les élèves qui utilisent régulièrement le dispositif.
Un témoignage au téléphone, nous avons en ligne Delphine Régnard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de lettres classiques dans les Yvelines au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Et alors vous êtes une sorte de pionnière du numérique puisque vous utilisez Twitter comme véhicule, je vous cite, d'une écriture créative. Alors comment peut-on avoir l'écriture créative en 140 signes ? Ça me semble assez difficile, racontez-moi ça.
Alors, je suis ravie que vous posiez la question de cette façon-là, parce que, justement, on ne se limite pas, évidemment, à 140 signes. Je voudrais juste revenir sur le terme pionnière. On est maintenant plus de 200 tweet classes à œuvrer un peu partout en France et même dans le monde. Et donc, moi, j'ai proposé à mes élèves d'utiliser Twitter parce que, justement, ils sont effectivement tout le temps connectés. Hein. Ils ont le téléphone et le smartphone à portée de main dans les poches. Et donc, je leur ai proposé de sortir leur instrument de connexion au monde numérique pour justement investir la toile et se rendre compte que sur Twitter, on peut certes trouver des tweets de 140 caractères qui parlent de façon nombriliste de soi, mais on trouve également un certain nombre d'auteurs, d'écrivains, de chercheurs, de professeurs, d'autres élèves qui sont là et qui partagent des contenus de très grande qualité, de façon non institutionnelle, de façon non privée, justement. Il en était question tout à l'heure. Donc, l'idée, c'était à la fois d'investir un réseau sur lequel il y a un certain nombre de personnes qui sont là et qui peuvent, avec nous, partager leur savoir, leurs compétences, leurs connaissances, leur envie d'écrire, de lire, etc. Et puis, de finalement réfléchir à des pratiques éminemment littéraires dont on s'occupe tout le temps. Et c'est en ça que c'est aussi il s'inscrit dans un dispositif pédagogique, c'est-à-dire la problématique littéraire, de savoir qui parle, qui je suis quand j'écris cela, à qui je m'adresse, pourquoi est-ce que j'écris en 140 caractères, ou pourquoi j'écris dans un commentaire d'un blog, quel est le sens que mon propos va prendre, etc. Donc on est vraiment dans l'écriture créative, puisqu'on peut en plus relayer nos écritures via un réseau social, mais aussi via un blog, mais aussi par plein d'autres façons.
Très bien. Delphine Régnard, juste une question. Que pense le proviseur de votre lycée quand vous êtes lancée dans cette utilisation de Twitter? Ça a été bien vu?
Oui.
Oui?
Eh oui. Oui, j'ai la chance d'être soutenue par ma hiérarchie.
Et c'est pas toujours le cas dans certains lycées. Emmanuel Davier.
Oui, alors, pour le proviseur, manifestement, il était enthousiaste. Concernant les élèves, comment ont-ils accepté cette interaction entre cet espace dont vous avez parlé, qui est le leur, normalement, le tweet, le réseau social, et puis l'espace donc pédagogique de la classe?
Oui, alors c'est assez intéressant parce que finalement le frein le plus fort vient des élèves eux-mêmes. C'est-à-dire que eux, ils sont là, c'est des élèves de première, ils sont là pour passer le bac à la fin de l'année. Ils ne sont pas là pour faire n'importe quoi en classe. Donc il a vraiment fallu qu'ils comprennent que ça s'insérait dans un dispositif pédagogique pour finalement comprendre que peu à peu je les amène à écrire et justement développer des textes qui vont leur donner confiance, qui vont leur donner envie d'écrire et qui vont les préparer donc à ce qu'on appelle l'écriture d'invention au baccalauréat.
Merci Delphine Régnard d'avoir été avec nous au téléphone, professeure de lettres classiques dans les Yvelines et donc utilisatrice de Twitter pour faire passer toutes vos connaissances. Et donc vous avez expliqué qu'il y a déjà en France 200 tweet classes. Donc le phénomène progresse. Pierre en Guadeloupe est en ligne avec nous depuis un bon moment. Il a été patient. On va le prendre en ligne. Bonsoir Pierre, vous vouliez intervenir ?
Mais bonsoir à tous, merci d'exister. Oui, je voulais intervenir parce que je vais paraître probablement rétrograde, je vais aller rapidement, hein, mais je pense que greffer une intelligence artificielle avant le développement de l'intelligence propre de chacun des élèves que nous avons et qui sont des enfants, en fait, ça revient au fait à développer la capacité à utiliser un outil. Et ça, dès le plus jeune âge, dans le berceau, on dope les enfants avec des stimuli sonores, des petites diodes qui s'allument, des musiques qui n'ont plus rien à voir avec les musiques de boîte à musique, quoi qu'ils sont des stimuli de bip, de téléphone portable. Ouais. Dans le cadre du CNED, je trouve ça formidable, mais c'est un pis-aller. Et les gens qui sont au CNED ont de toute façon les tripes pour vouloir le faire. Mais que deviennent les relations humaines nécessaires à la formation des futurs citoyens responsables? Moi, je parle pour le CNED, je ne nie pas que ce soit nécessaire, mais les relations humaines sont primordial dans l'enseignement. L'éducation, c'est du rôle des parents, l'enseignement, c'est du rôle des enseignants. Et d'autre part, bon, il y a quelques 20 ans, les remises à niveau sur A, accent, A sans accent, se faisaient en sixième. On les fait maintenant en première année de fac. Je vois pas quel est le gain qu'on a eu dans la formation des gens. Et la durée de vie de ces matériels, par son obsolescence programmée, est obligatoirement équivaut à des déchets. C'est-à-dire qu'on rend esclaves des élèves, des enfants de plus en plus jeunes, oui. On rend esclaves de ces gens-là pour leur faire faire des poubelles qu'on importe de Chine et qui traversent à grands frais de CO2.
Bien.
C'est tout ça lamentable.
Pierre, alors on va vous répondre parce que vous avez là prononcé un véritable réquisitoire. Intervention de Serge Bergamelli, donc directeur général du Centre national d'enseignement à distance.
Bien, alors écoutez, j'ai bien écouté, j'ai bien entendu ce que vous dites. Premier point, vous avez évoqué le CNED. Je pense que vous serez d'accord avec moi depuis très longtemps. Le CNED n'était plus tellement un centre national d'enseignement à distance, mais un centre national d'apprentissage à distance. Aujourd'hui, ce que la technologie permet, c'est de rapprocher les 1170 professeurs qui sont affectés au CNED, des inscrits, qu'ils soient jeunes ou adultes. La technologie n'est pas forcément un asservissement, mais dès lors que nous avons 202 000 inscrits qui sont répartis sur tous les fuseaux horaires, vous sentez bien que de plus en plus, apprendre à distance, c'est de plus en plus être connecté et c'est être en ligne. Je ne crois pas fondamentalement que la technologie asservisse l'individu, elle nous permet d'être plus réactifs. Si j'ai un jeune qui est à Brisbane ou à Tananarive, qu'il soit à la grande section de maternelle ou autre, on peut avoir des outils de forums, de chats, qui ne me semblent pas mener droit à l'asservissement. Deuxième point, et je crois que Jean-Marc y reviendra, ces outils nécessitent une éducation, un apprentissage des médias. On a beaucoup parlé d'une république moderne. Je pense au contraire qu'il faut prendre le taureau par les cornes et on ne peut pas, à mon sens, se réfugier derrière les murs d'une citadelle. Quand le partenaire vous inquiète, et j'ai bien senti les mots d'un adversaire presque technologique, il faut s'en emparer. Moi, j'ai une énorme confiance dans les enseignants pour, au contraire, laisser pénétrer ces technologies et en accompagner l'usage et le maniement.
Jean-Marc Mériot.
Alors, je pense qu'il faut aussi aller contre les idées reçues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le numérique ne veut pas dire abandon du présentiel. C'est-à-dire que je pense que ça aussi, c'est une dimension très forte, et c'est visible aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que concrètement, les réseaux sociaux nous ont permis aussi de recréer du lien social et de permettre la rencontre avec des personnes qui n'étaient pas spécialement amenées à se rencontrer. Et aujourd'hui, l'éducation est au cœur de cette logique-là entre, justement, cet environnement numérique, digital, virtuel et cette approche présentielle. Et c'est comme le média aujourd'hui et l'ensemble des médias. Nous ne sommes pas dans l'abandon d'un média par rapport à un autre. C'est d'une complémentarité. Et aujourd'hui, c'est cette complémentarité-là aussi qu'on doit vivre dans l'école.
Jérémy Pellet, professeur de sciences et vie de la Terre au Collège Rouault à Paris et qui participe à ce dispositif ADEL, aide aux devoirs et leçons en ligne. Vous avez le sentiment de délivrer un enseignement déshumanisé?
Non, pas du tout. On utilise la technologie, oui, pour intéresser les élèves, pour les faire progresser. Et on crée tellement de liens forts avec les élèves que non, au contraire, il y a beaucoup d'humains derrière et beaucoup d'humanité derrière.
J'espère qu'on aura rassuré Pierre en Guadeloupe. Emmanuel Dallier.
Le numérique peut-il efficacement venir au secours des décrocheurs? On sait que 150 000 élèves sortent du système sans formation. Donc, est-ce que ça peut les aider?
Serge Bergamelli.
Écoutez, moi j'en suis intimement convaincu. Mais le numérique qu'il a été évoqué par Jean-Marc est tel qu'il a été évoqué par ce jeune professeur qui nous accompagne. C'est-à-dire, pas du numérique en complément, mais du numérique articulé avec la présence. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Ce n'est pas ils décrochent, ils ne sont pas à l'aise dans le monde physique, on va leur proposer du numérique. Mais s'ils sont dans des lieux physiques et qu'ils sont en train de décrocher, quelle est l'offre numérique en complémentarité, en articulation? Et l'offre numérique, puisque le ministre en a parlé pour 30 000 élèves à la rentrée 2013, sur nous, ce sont des enseignants réels qui existent en articulation avec des enseignants dans l'établissement scolaire. C'est de la présence humaine, c'est bien de l'hybridation. Ce n'est pas du numérique en substitution, je n'y crois pas. C'est de la présence et de l'hybridation.
Sur ce problème donc, du décrochage scolaire qu'a évoqué Emmanuel Dallier, Jérémy Pellet.
Alors, au départ, on avait créé le dispositif pour ça, pour les élèves,
ouais,
décrocheurs.
Oui.
Malheureusement, on n'a pas réussi à les accrocher. Ce n'est pas à eux qui utilisent le dispositif, c'est les élèves qui sont très motivés. ceux qui ont envie de s'en sortir, qui sont pas dans le décrochage. C'est les élèves qui sont brillants, qui veulent progresser, qui veulent en savoir plus. On n'a pas encore trouvé le moyen de rattraper tous les élèves. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé de solution pour ça.
Parce qu'on se dit que des élèves qui décrochent sont des élèves qui pensent à autre chose qu'à apprendre. Ils sont très branchés sur l'informatique, les ordinateurs. Alors on se dit peut-être pour les remettre dans le bon chemin, utilisons le numérique, l'ordinateur, et ça ne marche pas.
C'est pour ça qu'on a utilisé ce dispositif qui est basé sur tout ce que les élèves connaissent. Ils utilisent régulièrement les réseaux sociaux, etc. Malheureusement, il y a le côté travailler avec son prof. Et en plus travailler de chez soi avec son professeur. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Alors non seulement ils ont du mal à se mettre au travail dans un établissement scolaire, mais alors de chez eux, où le cadre n'est pas forcément là, ça, on n'y est pas encore arrivé.
Serge Bergamelli.
On l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé d'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs, c'est une brique. Derrière, il y a un soutien plus approfondi. En fait, le mot, c'est l'accompagnement dans la durée. Mais l'accompagnement dans la durée avec des enseignants, moi, je dis, il ne faut pas renier un dispositif complet. Moi, je ne peux pas me satisfaire. Je crois que personne ne s'en satisfait des 150 000 qui sortent sans diplôme et sans qualification. Donc, je dis aujourd'hui, le numérique est une brique d'un dispositif, mais il faut y aller et il faut y aller en confiance avec les enseignants.
Jean-Marc Mériot.
Je pense sur la question du décrochage en tant que tel, elle est liée aussi à quel type de contenu pour les décrocheurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est au niveau de cette population qui se retrouve dans une situation de rupture, il nous faut aussi adapter ces contenus. Et si on leur propose des contenus qu'ils sont amenés à trouver dans un fonctionnement traditionnel de l'école, c'est pas comme ça qu'on va les raccrocher. Il faut réfléchir à justement quel type de contenu on est amené. Ce sont la plupart du temps des joueurs invétérés, c'est-à-dire que il y a par exemple la logique du jeu aujourd'hui qui est une vraie question de société et comment on peut utiliser tous ces mécanismes-là aussi pour permettre de pouvoir identifier de nouvelles ressources qui vont nous permettre peut-être là aussi de les raccrocher différemment.
À Besançon dans le Doubs, Roland est avec nous. Bonsoir Roland.
Oui, bonsoir. Je voudrais intervenir plutôt sur l'aspect gestion administrative des cours. Et je suis enseignant donc dans un lycée professionnel et qui est vraiment bien équipé, informatisé, numérique, numérisé comme vous voulez depuis de plusieurs années. Et je voudrais aussi dans un premier temps rebondir par rapport à ce qu'a dit Pierre en Guadeloupe, par rapport justement au fait que vu que nous sommes informatisés, en peu d'années nous avons dû poursuivre l'évolution, je pense, changer trois fois totalement de système, ce qui pose des problèmes, de nombreux problèmes de formation, d'utilisation, de maintenance, etc. Donc changer trois fois de système. L'autre aspect sur lequel je voulais intervenir, c'est sur la gestion administrative des cours, plus que pédagogique, et en particulier un problème qui est que effectivement, bon, dans mon établissement, par exemple, entre autres, je fais l'appel sur établissement numérique. Et montre en main, ça me prend 10 minutes. Le temps que la connexion se fasse, le temps de mettre l'appareil en route, le temps de faire l'appel, 10 minutes. Donc 10 minutes multipliées par le nombre de cours par jour, multipliées par le nombre de semaines par mois, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que pendant ce temps-là, donc c'est du cours qui n'est pas fait, et puis je peux pas prendre la classe en main. Ouais. Donc c'était un bémol que je voulais apporter à côté des nombreux autres avantages en termes de gestion de notes, de gestion du cahier de texte, etc., que l'informatique apporte à mon établissement et m'apporte.
Ben, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter au quotidien de quelle façon cette gestion informatique, numérique de l'enseignement, c'est un plus et ça marche, puisque vous le pratiquez ?
Bien, on retrouve décuplé tous les avantages de l'informatique, hein, c'est-à-dire pas de papier, on peut communiquer beaucoup plus rapidement avec les membres de l'équipe, de la direction, des personnels. En termes de gestion des notes aussi, toutes les notes sont numérisées, donc on saisit directement à l'écran les bulletins de notes, on n'a plus tous les calculs à faire, et les collègues qui m'entendent rigoleront quand ils se rappelleront les douloureux moments passés à calculer des des moyennes. Là, grâce à l'informatique, tout ça, c'est vite fait et très bien fait.
Très bien. Merci, Roland, de nous avoir appelé. Emmanuel Davier ?
Oui, non, une toute autre question.
Allez-y.
Vincent Peillon, cet après-midi, a annoncé que 250 000 enseignants seraient formés au numérique en 2 ans. Je voulais savoir sur quelle base seraient choisis ou recrutés ces enseignants. C'est sur la base du volontariat ?
Qui veut répondre ? Jean-Marc Mériot.
Alors, sur cette question du choix des enseignants, je pense qu'il y a une priorité qui a été énoncée, qui était la priorité du primaire. Encore, on y revient. Et c'est vrai que l'approche aujourd'hui qui sera privilégiée dans un premier temps, c'est des dispositifs pour permettre aux enseignants du primaire de pouvoir être accompagnés dans la mutation numérique. Donc, ça va concerner dans un premier temps beaucoup des enseignants du primaire et surtout dans l'annonce qui a été faite. C'est aussi, il y a plusieurs éléments. Il y a la question de la formation initiale avec la mise en place des SP et la question d'un SP numérique, donc voilà, et d'un campus numérique. Et il y a aussi la question de la formation continue qui ne repose pas spécialement sur les mêmes bases, puisque là aussi il faut intégrer une pratique de l'enseignant. Et donc, du coup, c'est là aussi d'autres modules de formation qui seront proposés. Et donc là-dessus, ça va être un mélange de formation initiale, d'intégrer la formation initiale et d'intégrer la formation continue.
Mais donc, ça concernera d'abord les professeurs des écoles.
Il y aura un grand... voilà, ça concernera beaucoup les enseignants
du premier degré,
sachant que, bien évidemment, les autres seront aussi intégrés, mais sûrement dans des approches, là aussi, plus disciplinaires, où on intégrera ceux qui seront...
Enfin, on est toujours dans la cohérence de donner vraiment une impulsion pour la refondation à l'école primaire.
Exactement. C'est exactement ça.
Il est déjà 19h54. Intervention de Serge Bergamelli.
Non, mais je crois que par ailleurs, la réflexion en cours sur les maquettes pour les futures écoles supérieures
du professorat
intègre très très fortement le numérique, au-delà de la priorité qui est donnée à l'école.
Juste une question, Jérémy Pelé, vous êtes vous participez à ce dispositif Aide aux devoirs et leçons en ligne. Vous avez le souvenir de votre formation? Ça a été un moment long, difficile, puisque ça va concerner des dizaines de milliers d'enseignants.
Moi, j'en garde un bon souvenir. Bon, oui. C'était encore à l'UFM, mais
on a un jeune enseignant quand même, précisant aux auditeurs que l'enseignant face à nous est jeune.
Bon, on a été formés, il y avait déjà une priorité. On utilisait les outils en sciences de la vie et de la terre, surtout les logiciels, etc. On avait tout un tas de formations qui nous étaient proposées. Donc, nous, je pense qu'on est assez à l'aise maintenant avec l'outil. Maintenant, c'est vrai que c'est un problème de génération aussi, j'imagine.
Oui, mais enfin, on peut imaginer que les enseignants jeunes, aujourd'hui, qui se lancent dans cette profession, ils sont quand même, comme on dit, branchés numériques.
En tout cas, pour le moment.
Ouais. Jean-Marc Mériot ?
Ce qu'on constate, c'est qu'un enseignant, pour commencer à innover, il faut quand même qu'il ait la pratique de sa classe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi la maîtrise de la classe qui prévaut avant même d'utiliser de nouveaux outils. Et le constat, dans les... pas mal d'études qui ont eu lieu, c'est qu'un enseignant, il commence à innover après 10 ans de pratique. Vous voyez, donc nous, je pense qu'un des enjeux autour du numérique aujourd'hui éducatif, c'est de réduire ce temps et de faire qu'on puisse utiliser l'ensemble de ces outils bien avant. Et donc, c'est aussi renforcer l'enseignant et aider l'enseignant à pouvoir maîtriser sa classe beaucoup plus rapidement.
Serge Bergamelli, mais très vite, parce qu'il nous reste un appel téléphonique, le temps passe trop vite.
Oui, puis attention à ne pas tout focaliser sur le temps de la classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, c'est mobilité et connectivité. Comment apprend-on ? Apprendre à distance n'est pas réservé à des gens qui ne sont pas dans le système classique. Apprendre à distance, c'est quelque chose qui concerne la totalité des élèves. Et donc, comment les enseignants structurent des contenus pour que l'élève apprenne hors les murs, connecté et en mobilité?
Dernier appel, Pierre-Alain à Montpellier. Pierre-Alain, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de prendre ma question et je vous félicite pour votre excellente émission.
Merci.
Voilà. La région Languedoc a décidé de fournir à l'ensemble des élèves qui entrent en seconde un ordinateur portable. Donc la fracture numérique chez nous n'existe pas à partir du lycée maintenant. Le problème que nous avons rencontré, puisque ma fille a obtenu à son entrée l'an dernier un ordinateur, c'est que les enseignants n'ont absolument pas, disons, joué le jeu. Voilà, ils ont snobé cet outil, et ce qui fait que on s'est rendu compte au bout de quelques temps que notre fille ne passait plus son temps, son temps de travail, elle le passait en partie sur Facebook, sur Internet, à chercher de la musique, des choses comme ça. Et bon, voilà quoi. C'est carrément, il a fallu. Ça nous a compliqué la tâche.
Mais alors, Pierre-Alain, comment les enseignants ont-ils justifié le fait de snobber ces ordinateurs ?
Aucun retour.
Alors, sur ce témoignage, l'émission est presque terminée. Jean-Marc Mériot.
Non, je pense qu'on revient bien sur la question fondamentale, comment on accompagne les enseignants dans l'utilisation de l'ensemble de ces outils. Et tout ce qui a été annoncé cet après-midi réside bien aussi dans justement comment on doit renforcer cet accompagnement. Après, il y a aussi, je pense, que ce lien entre le temps scolaire, le hors-temps scolaire, la maison, dans la classe, est aussi une question fondamentale. C'est pour ça que les associations de parents d'élèves doivent être aussi fortement associées à ces questions de la place du numérique dans l'école et en dehors de l'école pour pouvoir travailler ensemble sur ce continuum qui est nécessaire.
Elisabeth, dans les Côtes d'Armor, ce sera vraiment le dernier appel. Elisabeth, vous êtes là ?
Oui, bonsoir.
Vous avez 30 secondes.
Oui, alors je voulais savoir s'il y avait eu des relations avec les neurochirurgiens, les neurologues, parce que j'ai assisté à une conférence où un neuroscientifique expliquait que la main participait au développement aussi du cerveau, et que, par exemple, on retenait mieux aussi quand on écrivait. Et puis, je crois que j'ai entendu aussi ce genre de choses sur votre antenne. Et puis, petite boutade, est-ce que l'éducation nationale fournira les paires de lunettes qui seront nécessaires à tous ces jeunes gens ?
Voilà, très bien. Et il nous reste 10 secondes. Voilà, Elisabeth, très bonne question, très vaste. Qui veut répondre ? Jean-Marc Mériot ?
Rapidement, pour dire que les sciences cognitives sont réellement au cœur même de ces nouvelles pratiques et d'études. Et je pense que là-dessus, on doit réellement aussi intégrer tout ça, bien évidemment, dans ces nouveaux usages autour du numérique.
Merci à nos invités, Serge Bergamelli, Jérémy Pellet, Jean-Marc Mériot et Emmanuel David. Bonsoir.